connaît en écologie.
Encore des mouvements de colère des routiers en France.
CO2. Qui
protestent contre le prix élevé du gazole.
Tu vas faire les bagnoles ?
Peut-être.
Le bonus automobile plombe les comptes de l'État.
En amour.
Oui, il y a urgence à agir pour sauver la planète.
Denis Chessou.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission qui empêche de polluer, de réchauffer, de penser en rond, en tout cas qui essaie et qui prend le temps de ne pas aller vite, avec aujourd'hui Éric Morin et Thibaut Deschamps à la technique, assisté de Marion Lelay, de Jean-Christophe Pinaza, c'est Valérie Ayestaraï qui réalise l'émission. Une petite humeur en fonction de l'actualité, bien sûr. Coup de froid sur l'Europe et bonne nouvelle pour les frileux. Et oui, contrairement aux Irlandais qui payent comptant les erreurs de leurs banquiers, le réchauffement climatique, lui, ne connaît pas la crise. Même au plus fort de la débâcle financière, les compagnies pétrolières ont continué de pomper, les camions, voitures de rouler, les avions de voler, les chaudières de réchauffer. Bilan de l'opération, les gaz à effet de serre s'entassent toujours plus au sud, au-dessus de nos têtes et le compteur de CO2 affiche allègrement 387 parties par million. C'est comme ça qu'on comptabilise les gaz à effet de serre au dernier relevé. Donc 387. Ce qui nous donne des incendies en Russie, des inondations au Pakistan, sécheresse au Niger, même si les relations de cause à effet ne sont pas 100% garanties, on est bien d'accord. Rappelons que passé les 450 parties par million, les spécialistes du climat ne répondent plus de rien. Ah non, non, nous on ne veut pas le savoir, on vous l'avait dit. 2 degrés, là après on ne peut plus dire. Vous me direz, les émissions mondiales de CO2 ont diminué en 2009. Oui, mais c'était pour assez passager et 2010 pourrait bien faire tomber de nouveaux records. En Chine, par exemple, le négociateur chargé du climat a reconnu cette semaine que l'empire du charbon avait pris la tête du peloton avec un quart des émissions de CO2. Bon, rien d'étonnant puisque à peu près tout ce que nous achetons est fabriqué là-bas. Hein, comme quoi les gaz à effet de serre, ça se délocalise très très bien. Et pourtant, après la déroute de Copenhague l'an dernier, nos représentants à la conférence de l'ONU sur le climat risquent de se la jouer tout à fait modeste, la semaine prochaine à Cancun. Cancun, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une petite perle des Caraïbes. Ses eaux turquoises, ses plages de sable blanc qui se font la malle depuis qu'on a éliminé les mangroves, ses hôtels de béton plantés à la place et ses millions de touristes qui s'entraînent chaque année à lutter contre le réchauffement climatique entre la piscine et la chambre climatisée. Alors Cancun, évidemment, c'est un modèle de développement insoutenable. La preuve qu'au service climat de l'ONU, au moins on ne manque pas d'humour. Et évidemment, comment on y va? On y va obligatoirement en avion, enfin obligatoirement, peut-être en trottinette, vous pouvez toujours essayer. Et donc nos félicitations à Barack Obama, champion du monde au classement de Terra Eco, qui est un des plus gros émetteurs de gaz à effet de serre, et dont le Boeing nous a largué dans l'atmosphère l'année dernière 20 000 tonnes équivalent de CO2. Notre président à nous n'arrive qu'en 6e position, pas terrible, mais il compte bien doubler la mise l'an prochain avec Air Sarco One, son nouvel Airbus, et se faire une place parmi les chauffeurs de ce monde. Des scores, à vous relativiser les exploits des bouffeurs de cailloux du Dakar, dont les petits joujoux embarquaient cette semaine en direction de Buenos Aires. Alors je vous pose la question, chers amis pilotes, et si à force de repousser les décisions gênantes, on finissait par rater la dernière sortie avant une petite cata que l'on ne souhaite pas, et si l'homme du futur, lui, descendait un peu de sa voiture? Alors je vous l'ai dit, dossier de ce CO2 mon amour cette semaine avec Guy Archambault, on va parler de la rénovation des maisons. On va pas parler des maisons neuves parce que là ça mérite aussi vraiment un dossier complet, mais vraiment le lourd, ce qui est important c'est la rénovation des maisons. Donc on va pas rénover votre maison avec les cas particuliers, mais donner quand même les grands axes, les priorités, ce qu'il faut faire. Ceci dans le cadre du salon Bâtir écologique qui a lieu ce week-end. Mais auparavant, bien sûr il est là, c'est Jean-Marie Pelt avec un bel ouvrage, avec des photos de Sébastien Salle. Gado, Jean-Marie Pelt, bonjour.
Bonjour Denis, bonjour à tous.
Nous allons toujours feuilleter cet ouvrage qui s'appelle donc La Voie du Bonheur et on s'intéresse à la protection de la nature, protéger la nature qui nous protège.
Alors l'idée de protéger la nature est en effet cette idée que nous ne pouvons pas nous en passer et que nous devons avoir des relations d'équilibre avec elle. Dans l'Antiquité, il y avait au Liban de formidables forêts de cèdres qui étaient des arbres de grande taille d'ailleurs, et qui se prêtaient bien à l'exploitation pour faire des poutres, pour faire des bateaux, pour faire des boiseries dans les palais. Voilà. Et par conséquent, on a déboisé le Liban. dans la Bible, on raconte comment le roi de Tyr, qui s'appelait Hiram, a fourni beaucoup, beaucoup de cèdres à Salomon pour construire son temple. Bon, comme tout le monde a profité des cèdres, à un moment donné, il y avait pratiquement plus de cèdres. Et c'est l'empereur Hadrien qui a pris un arrêté en l'an 125 de notre ère pour que les quelques cèdres qui restaient soient inscrits dans le patrimoine impérial et que par conséquent, on ne puisse plus les couper. Mmh. Et les cèdres ont ainsi presque disparu du Liban. Il y en a toujours sur les avions, il y en a toujours sur le drapeau. Dans la campagne, il n'y en a plus beaucoup. Alors, il y a une nouvelle intéressante, c'est qu'on est en train aujourd'hui de les replanter. Ouais. Et il y a un effort très important qui est mené au Liban pour qu'il ne reste pas quelques cèdres dans le parc national de Béchare où on avait conservé les derniers exemplaires, mais pour que la montagne du Liban se repeuple de cèdres.
Alors Jean-Marie, ce concept en fait de protection de la nature est tout à fait moderne et on peut même partir en France. Avant d'aller aux États-Unis, on peut aller en France, nous sommes en 1861 et on n'est pas loin de Paris, on est au sud de Paris.
Oui, et c'est la première fois que l'idée est venue de protéger une forêt, en l'occurrence un morceau de la forêt de Fontainebleau. Alors l'idée était tout à fait étonnante, elle peut paraître aujourd'hui un peu désuète, c'était protéger les beaux espaces pour que les peintres puissent les peindre. Ça s'appelait une réserve artistique. Oui. C'était ça l'idée.
Oui, on n'était pas dans l'écologie.
On n'était pas dans l'écologie, on était dans les arts et dans l'esthétique. Et c'est quelques années plus tard, en 1872, que les Américains dans le Wyoming, à Yellowstone, ont créé le premier parc naturel.
Mais avec les protestants d'ailleurs qui ont fait ça.
C'était l'esprit protestant tout à fait. C'était la première fois que la nature était par conséquent mise sous la protection de l'homme. Et ce mouvement alors s'est développé dans le monde entier actuellement, chacun le sait bien. Mais en Amérique, ce qui est intéressant, c'est que pour les Américains, un parc naturel, c'est la nature. Ce que nous appelons nous la nature, c'est-à-dire la campagne, pour les Américains, c'est un terrain industriel. On y met des céréales et on y passe avec des gros tracteurs. C'est pas la nature. Par contre, les grands parcs, alors ce sont des réserves. Et on y va pour s'émerveiller devant la beauté de la nature.
Alors Jean-Marie, que nous disent maintenant quelques textes? Que nous disent les quatre grandes spiritualités?
Ben écoutez, on va commencer par les bouddhistes, si vous voulez. J'ai été très frappé parce que j'ai trouvé un texte du Dalai Lama. C'est le discours qu'il a prononcé le 11 décembre 1989, lorsqu'il a reçu le prix Nobel de la paix à Oslo. Oui. Et là, il a rêvé sur ce que devrait être à ses yeux le Tibet, un lieu de refuge, dit-il, libre, où l'humanité et la nature pourraient vivre en paix, dans un équilibre harmonieux. Ce serait un endroit que les gens du monde entier pourraient venir chercher le vrai, la beauté et la paix. C'est une très belle idée. Alors évidemment, c'est une idée qui n'est pas très compatible avec la manière dont les Chinois voient le Tibet.
Non.
Non, parce qu'ils y voient des ressources qu'ils vont pouvoir évidemment exploiter et des peuples qu'ils vont pouvoir dominer. Mais c'est une très belle idée. Et ce qui est étonnant, c'est que cette idée, on la trouve dans toutes les grandes religions, en fait, du monde. Le prophète Mahomet, ça c'est pour les musulmans, pas dans le Coran, mais dans les hadiths, c'est-à-dire les paroles qu'on lui prête et qui ont été conservées religieusement, le prophète Mahomet a déclaré que la Mecque et son environnement étaient une cité qui était un lieu saint et qu'on ne pourrait pas y arracher des plantes ni poursuivre le gibier. Il ne sera possible dans tout le périmètre de la Mecque que de prélever des fleurs pour leur parfum. Je trouve ça très joli. Et ensuite, il a dit la même chose pour Médine, puisqu'il s'était réfugié à Médine, au moment de l'Égypte. Et il a fait aussi de Médine une zone protégée où l'homme et la nature doivent vivre en bonne intelligence.
Alors si on doit regarder quelques phrases aussi du Talmud.
Ben, le Talmud, il y a une très belle histoire que je trouve très émouvante. Ce sont deux plaignants qui se disputent pour un lopin de terre. Alors ils vont voir le rabbi, hein. Ils exposent leur point de vue chacun. Et le rabbi ne sait plus à qui il doit donner raison, parce que leurs argumentaires sont également valables l'un et l'autre. Alors le rabbi a dit, eh ben écoutez, je vais demander à la terre ce qu'elle en pense. Et il met son oreille sur la terre. Et au bout d'un moment, il se relève et il dit, la Terre a dit que vous aviez tort tous les deux parce que la Terre ne vous appartient pas, c'est vous qui appartenez à la Terre. C'est joli, hein? Oui. Et puis alors vous avez, pour finir, puisqu'on a passé en vue les grandes religions dans le christianisme...
Regardons un petit extrait d'Évangile.
Oui, alors dans l'Évangile, on a le magnifique Évangile d'Ulysse des Champs, où Jésus admire la beauté de la création. Et alors il dit que le lys des champs, probablement que ça se produisait au printemps, où il y a de très belles floraisons, effectivement, en Palestine, est si beau que Salomon, dans toute sa splendeur, n'était pas aussi beau que le plus petit d'entre eux. Et que pourtant, il serait coupé et il servirait à faire du foin. Donc la nature est là comme un lieu d'admiration, de contemplation et pas de possession. Et après il parle des oiseaux du ciel et il dit « Ils ne sèment ni ne moissonnent, mais votre Père Céleste les nourrit ». Donc c'est la même idée. C'est l'idée qu'on avait aussi pour les Indiens. Et d'ailleurs, il faut se rappeler que les hippies, ils vénéraient les Indiens et Jésus. Ils avaient Jésus sur le dos de leur t-shirt et c'était la même chose. C'était cette même idée que la nature nous est offerte par le Créateur pour Jésus, son Père, par les Indiens pour le Grand Esprit, mais le Grand Esprit c'est aussi une divinité, elle est à notre disposition et nous devons la fréquenter avec de bonnes intentions. Et comme je voyais avant-hier à la télévision le sac de l'Alberta où les schistes bitumineux sont extraits avec une brutalité qui vous laisse pantois, je me dis voilà, nous avons rompu le pacte, et nous allons devoir payer la facture. Alors, repensons à tous ces beaux textes que nous venons d'évoquer.
Et que l'on retrouve donc dans ces Voies du Bonheur aux éditions de La Martinière, avec des photographies de Sebastio Salgado. C'est quand même pas mal du tout. Ils ne sont pas rencontrés, il faut bien le dire. Mais quand même, ils vont peut-être le faire un jour. Nous allons passer à notre isolation de maison. Mais auparavant, Pepe Voltarelli. Non, Voltarelli, pardonnez-moi, je recommence. Pepe Voltarelli. Oui, et demandez au parloir. Boum, 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 boum.
Se a punta impolverate del mio stile ti innamorerai. Maschera da lupo e una pelliccia per non sentire il freddo, le zanzare, il babalù. Questo viaggio è un volo nella nebbia, in fila per non perder l'occasione, con piloti stronzi e suonatori, obiettivi mancati, prepotenti e malaffare. Dove sei, amore mio? Perché non torni da me? Canterò e ballerò solamente per te, solamente per te. Sogno è cosa assai leggera, un corno bianco dritto verso il cielo, da portare senza ciancia ciancia, è un cubo pesante che nessuno mai alzerà, è un pensiero serio, è il disimpegno, un angolo di casa per lo show, il segreto, la prova dello specchio. Anni passati a chiedersi cos'era il babalù. Dove sei, amore mio? Perché non torni da me? Canterò e ballerò solamente per te, solamente per te. Pom 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 p
Scarpe rosse impolverate, autrement dit des chaussures rouges poussiéreuses. C'était donc choisi par Muriel Pérez. On aime beaucoup ce disque sur France Inter, mais vraiment, Pepe Voltarelli. Alors, on peut se dire que Paolo Conte a fait des petits, mais enfin, quand il y a du talent, eh ben, il n'y a aucun problème. Nous aimons beaucoup cet album. Alors, vous avez sûrement entendu parler donc de maisons, vous le savez, BBC, basse consommation, de maisons passives qui ne consomment pas d'énergie, qui en produisent. Alors, ok, ça c'est très bien, ça donne envie, mais la réalité en France est la suivante, on construit 300 000 maisons neuves par an, ça veut dire que 1% du parc à peu près est renouvelé tous les ans, et puis bah, il y a quand même 30 millions de logements qui sont habités, dont près de 20 millions sont antérieurs à 1973, donc avant la première réglementation thermique. Donc ça porte un nom, ça s'appelle des passoires thermiques. Bien, donc si on veut réduire l'impact environnement du bâtiment, bah, c'est sur la rénovation que les efforts doivent porter, même si évidemment les maisons neuves doivent impérativement être au top de l'isolation. Le bâtiment en France, c'est 43% de la consommation d'énergie primaire et 25% des gaz à effet de serre. Donc c'est pas une affaire qui est neutre du tout. Alors ce week-end, à la Grande Halle de la Villette, s'ouvre le salon du bâtir écologique. Vous avez plus de 130 exposants qui sont sélectionnés, des cycles de formation, des conférences, l'Institut Négawatt qui sera présent. Et puis, Guy Archambault, bah, vous êtes là aussi parce que vous êtes, vous, journaliste spécialisé dans le bâtiment depuis une quarantaine d'années. Donc, je veux dire que vous parcourez les chantiers, les professionnels du bâti. Bonjour, Guy Archambault.
Bonjour, Denis.
Pourquoi la construction doit-elle être écologique ?
Alors, d'autant plus aujourd'hui parce que les bâtiments à faible besoin ne fonctionnent plus du tout comme les bâtiments antérieurs. Jusque-là, on considérait qu'on avait 65% de l'énergie qui passait dans le chauffage. On se préoccupait beaucoup du confort d'hiver. Et aujourd'hui, on a des bâtiments à faible besoin qui vont devoir avoir comme base 50 kWh au mètre carré de consommation d'énergie chaque année. Et du coup, la consommation d'énergie pour le chauffage tombe à 15% à peu près. Ce qui veut dire qu'il reste là 85% pour les autres usages et d'un seul coup, tout prend une autre dimension. Sachez par exemple que dans des logements, on peut atteindre jusqu'à entre 12 et 15% pour la ventilation. Mmh. On peut atteindre pratiquement 8 à 10% pour l'éclairage. Et du coup, la consommation d'énergie qui entre dans la fabrication des composants et du bâtiment prend elle aussi une autre dimension. Et on peut avoir des consommations, si on y prend garde, qui sont supérieure à la consommation du bâtiment sur sa durée de vie.
Guy Archambault, maintenant, fixons les priorités. Alors, je sais bien qu'une maison, mettons, dans l'abri, une maison du sud-ouest n'est pas la même, mais quelles sont les priorités lorsqu'on veut attaquer une rénovation de maison ?
Alors, tout d'abord, il faut se poser la question de la vie que l'on veut construire dans cette maison. Ce que je veux souligner, c'est qu'il y a un facteur technique, qu'on aborde souvent, mais qu'il y a également un facteur humain. C'est-à-dire, quel confort est-ce qu'on veut ? Quelle vie est-ce qu'on veut ? Cette question de l'humain, de la culture, va sans doute être prépondérante pour le choix des solutions qui vont être ensuite développées dans la construction. Alors après, deuxième facteur, on entre dans la partie un peu plus technique et il va falloir déjà commencer par comprendre le bâti considéré. Mmh. Alors comprendre pour ne pas faire d'erreur. Comprendre également pour conserver ce qui peut l'être au maximum et ne pas changer de caractère de la maison ou du logement.
Parce que c'est une tendance quand même de vouloir abattre certaines choses et de se dire, allez tant pis, refaisons du neuf sur du vieux ou...
Oui, alors il y a deux tendances. Il y a cette tendance que vous soulignez fort bien, mais il y a également une autre tendance, je pense par exemple aux fenêtres. Mmh. Alors aujourd'hui, on voudrait plutôt une fenêtre qui ferait à peu près carré, 140, 120... Et dans un bâti où la fenêtre traditionnelle fait 165 par 65, ça devient n'importe quoi. Je veux dire, la façade est complètement dénaturée.
D'accord.
Alors en plus, on veut absolument isoler les murs par l'intérieur. Et du coup, quand on a des murs de forte épaisseur, on risque d'avoir des effets qui soient pires que le remède. En plus, on met les fenêtres au nu intérieur, ce qui veut dire qu'on perd toute la lumière qu'on pourrait espérer avoir. Mmh. Bref, on va vraiment à l'envers de ce qu'il faut faire. Donc, d'abord comprendre et ensuite conserver ce qui peut l'être et ne pas trop dénaturer la souche de cheminée. Si elle est comme ça, c'est qu'elle était comme ça à l'origine. Donc autant que ce soit possible, essayer de la récupérer dans le même esprit. Alors le deuxième aspect, c'est de comprendre, une fois qu'on a compris comment fonctionne le bâti, essayer d'en conserver le fonctionnement autant que possible. Alors on est devant un dilemme, c'est qu'il va falloir isoler et isoler très très fort, parce qu'on va au-devant d'une énergie qui va être de plus en plus onéreuse et de plus en plus rare. Donc il faut isoler, ça c'est clair. Maintenant, il ne faut pas le faire n'importe comment, et il va falloir distinguer des constructions qui sont antérieures aux années 20, on va dire, avec des murs extrêmement épais, avec un fonctionnement fondé sur l'hygrométrie, donc on a des transferts de vapeur d'eau à l'intérieur qui régulent la température de surface et qui régulent en même temps l'hygrométrie du lieu. Et puis on a une forte inertie qui nous permet de récupérer de la chaleur quand on en a besoin et de la fraîcheur quand on en a besoin. Donc tout ça, il faut essayer de le préserver.
Il y a un côté accélération et un côté frein, quoi. Il faut savoir doser son
affaire. Voilà. Ouais. Donc la priorité là, c'est de commencer par évidemment travailler sur les ouvrants, les fenêtres, les portes. Travailler sur tout ce qu'il y a de fuite, les fuites d'air, parce qu'il y en a forcément. Travailler sur la toiture, c'est considérablement
30%
important.
30% de déperdition, je crois, c'est le poste numéro 1.
Ça peut même aller beaucoup plus loin, ça D'accord. dépend tout à fait du type de bâti et comment c'est fait. S'assurer que la ventilation soit parfaitement en bon état, et à partir de là, regarder le reste, on fera plus tard. Déjà, commencer par là, et puis voir comment tout ça fonctionne.
Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de faire un petit tour dans le département du Cantal, un peu recouvert de neige, on l'a compris en écoutant la météo aujourd'hui. Bah, là, c'était il y a quelques mois, à peine quelques semaines, en compagnie de Stéphane Serre, qui est un garçon qui est guide accompagnateur. On avait fait un sujet que je vous diffuserai un petit peu plus tard, et puis quand j'ai vu sa maison, lui, justement, était en plein dans la rénovation. Donc, il a repris un ancien hôtel. Nous sommes vraiment au pied du Puy-Marie, donc c'est extraordinaire. Nous sommes à Lavigerie, si vous connaissez, sur la direction de la route de Murat. Et puis là, donc, on voit son enseigne, Alta Terra. Et donc, allez, on y va, on n'a même pas besoin de frapper à la porte, il était dehors. C'est parti. Comment s'est passée cette rénovation, Stéphane Serre ?
On a racheté ce vieil hôtel qui était l'hôtel du Puy-Marie, qui avait été construit en 1920. Il était presque en ruine, en fait, il était délaissé. Et on l'a repris et on a voulu le reconstruire et lui redonner une vocation d'accueil, d'hébergement, ouais. de restauration, etc. Mais en le restaurant, on a voulu vraiment utiliser des matériaux simples, naturels, d'ici, pour coller à l'architecture vernaculaire. Donc à l'intérieur, on a réutilisé des enduits à la chaux, des enduits à la terre et à la paille, du torchis. Après, on a fait l'isolation en liège expansé, en laine de plume et laine de mouton.
Ça, c'est pour le toit, c'est aussi pour les murs intérieurs.
Alors, les murs intérieurs, c'est chaux,
ouais.
et terre et paille.
Qui a un vrai pouvoir respirant.
Oui, c'est ça, qui laisse respirer le mur. C'est des murs de 1 mètre d'épaisseur quand même. Et la vraie isolation du mur, c'est la multiplicité des couches. Il y a 5 couches. Il y a 12 cm de chaux à l'extérieur, un parement en pierre de volcan. À l'intérieur, entre un deuxième parement de pierre de volcan vers l'intérieur et entre les deux, de la terre glaise et de la paille, et encore un enduit à la chaux à l'intérieur de 12 cm. Ce qui fait 5 couches et ce qui fait donc une inertie géniale et qui permet justement de laisser le chaud à l'intérieur l'hiver et le froid dehors et l'inverse à l'été.
Alors on regarde ce toit qui est très beau parce qu'il est fait en écaille de lauze. Hein,
voilà.
C'est ça. Et donc dessous.
Et dessous, donc, on a isolé la doile avec du liège, liège expansé, c'est génial, en couches croisées, et ça marche super bien.
Alors j'étais parti sur le toit végétalisé.
Alors oui, le toit végétal, ça c'est un truc que j'ai appris à faire en Norvège, dans les îles Lofoten, que j'ai trouvé génial, parce que je trouve ça très beau, c'est très adapté au paysage de montagne, ça se fond dedans, c'est magnifique. Et puis, il y a deux intérêts, c'est que, un, c'est un vrai pouvoir isolant parce qu'il y a 30-40 cm de terre, donc c'est génial au niveau de l'isolation.
Laissons faire la nature.
Et le deuxième point, qui n'est pas négligeable, c'est que moi je l'ai fabriqué comme ils le font en Norvège et ça m'est revenu à moins de 10 euros le mètre carré, ce qui est quand même génial pour un toit, quoi. Un toit isolé.
Un toit isolé. Bon, on va aller à l'intérieur, on va voir comment vous vous chauffez. On se doute bien qu'en voyant les bois et les bocages, parce qu'ici on peut parler de bocages, hein. Les gens font leur bois, alors que c'est pas des haies, mais c'est des bocages faits avec des frênes.
Oui, c'est ça, c'est les frênes qui est planté pour le bocage, parce que là aussi ça fait du bois de chauffage, mais quand il y a pénurie d'herbe, le frêne il a l'avantage que c'est très nutritif pour les vaches, et quand il y a pénurie d'herbe, il coupe les branches du bas, ce qui fait une taille nécessaire, et il donne à manger les feuilles aux vaches, et elles en raffolent, et d'abord c'est très très bon pour la lactation. Ouais. Et donc au niveau des bois, nous on se chauffe au bois. On a une chaudière à plaquettes de bois qui est en fait du bois de déchets de Syrie. Et elle est en dessous, le stockage est en dessous. Quand il y a besoin d'eau chaude ou quand il y a besoin de chaleur, elle se met en route et elle brûle son bois tranquillement. Mais aussi tous les bois qu'il y a à l'extérieur. Ici, on a refait une terrasse. C'est que des bois qui sont du Cantal. Donc ça, c'est du mélèze qui est imputrescible de nature. Et là, du douglas sur le bardage. sur les extensions qu'on a faites.
Alors, très intéressant aussi, cette grande cuve avec une cheminée, quel est le diamètre ?
Ça fait 2 mètres de diamètre,
oui.
C'est un tonneau en fait, en cèdre rouge, donc il n'est pas du Cantal celui-là. Et c'est en fait quelque chose qui s'appelle le bain Storvat, c'est une tradition qui vient du nord de la Norvège, là aussi, j'ai bien aimé.
Ah, ils adorent se faire suer là.
Voilà, et en fait le principe c'est simplement de le remplir d'eau, et comme le poêle il est complètement immergé, on fait 4 heures de chauffage dans ce poêle là, tu vois, et l'eau se réchauffe au contact de la flamme et du poêle,
ouais.
Et 4 heures après l'eau est à 38 degrés, donc je coupe le tirage du poêle ici,
ouais.
Avec le couvercle, et on a des bancs, et donc les gens ils viennent à 5 ou 6
ils ressortent bien comme des légumes.
Ah, bah, ils sont super
et
bien,
et vous faites de la soupe avec,
ils
après.
Sont cuits, voilà. Oui, mais c'est en fait c'est la nouvelle potée auvergnate, et on met quelques carottes, quelques patates, et
oui,
c'est
oui,
parti.
En plus des gens qui voilà
c'est... Mais là-dedans il y a zéro électricité, il y a rien du tout, et nous je vais même vous dire, on brûle beaucoup de... je fais le tour des chantiers et je récupère du bois de démolition,
ah oui.
Qui est du bois super sec, et donc on fait la flamme de base avec ça, donc le chauffage est intégral presque, et après je maintiens la température avec du bois de bocage, quoi, du bois de frêne et de hêtre.
Ce qui est bien, Stéphane Serre, c'est que vous êtes parti en fait d'une maison ancienne, et puis vous avez voulu simplement améliorer le modèle avec les matériaux d'aujourd'hui et,
oui,
et le savoir-faire.
Et la connaissance qu'on a aujourd'hui, et à la lumière de ce qui se faisait ailleurs, et notamment donc les toits végétaux, je
ah
reviens
oui.
dessus. Quoi. Ça, c'est un truc que si j'avais pas été travailler un peu en Norvège du Nord, j'aurais pas connu. Quoi.
Bah, les gens viennent visiter, ils disent oh, c'est quoi ton toit là ? Qu'est-ce que c'est ? C'est pour les poules ?
Au début, la question c'était mais tu fais comment pour couper l'herbe ? Et en fait, c'est une vraie prairie.
Bah, oui.
Donc on la laisse vivre toute seule, donc elle a une période de floraison, de grainaison, après elle se dégénère, elle se décompose et elle augmente la quantité d'humus et voilà, elle s'enrichit par elle-même, quoi, et elle fonctionne toute seule.
Et là, vous mettez pas du Roundup pour les mauvaises herbes ?
Bah non, parce que...
J'ai appris ça. Ah, vous me décevez.
Parce qu'à côté, dans le jardin, on a un petit jardin, on a une petite bande aromatique, et toutes nos tisanes et tout noté, en fait, noté à la menthe, etc., à la sauge, ben on va directement cueillir. Donc quand les gens nous commandent, on va directement cueillir dans le jardin.
Ouais, c'est pas mal ça.
Ouais, c'est rigolo, ça fait rigoler les gens.
Allez. Alors qu'est-ce que l'on peut vous souhaiter dans ces paysages superbes où on a le puits-marie en point de mire ?
Ben, je dirais de savoir et de pouvoir continuer à profiter de la diversité que nous offre le Cantal, de la diversité de ses paysages, de la diversité de sa végétation,
oui.
De ses ambiances, de ses émotions, de son climat, de la diversité qu'on peut avoir là à portée de la main.
Et parce qu'on peut rappeler qu'en fait, au-dessus de chez vous, sur le plateau du Limon, c'est presque une ambiance de steppe.
Ah oui, on est en Mongolie presque. Hein,
voilà. Et puis de l'autre côté, quand on regarde donc du côté de ce puits-marie, de ces quatre vallées qui sont arrosées, on est plus en de la... presque dans les Alpes, enfin.
Ah oui, oui, bah on commence à avoir des pentes très fortes à 52 degrés,
ouais.
Des choses comme ça, qui sont très sympas à skier d'ailleurs, en ski de rando. Et puis des falaises et des belles prairies d'alpage. Et donc oui, on peut dire qu'on est dans les Alpes. Et si on continue là juste un petit peu
ouais.
à gauche, on finit sur un plateau qui nous rappelle un peu la Finlande, avec une prairie couverte de pins clairsemés, avec des bouleaux, des petits arbres comme ça, des petits arbustes. Et puis hop, par-ci par-là, des lacs.
Ouais.
Et donc là, on est presque en Finlande.
Ouais. Alors, on comprend que vous ayez posé votre maison dans cet esprit-là. Merci à vous Stéphane, et puis à très bientôt. Au revoir.
Merci Denis.
Et puis quand même, ce qui est très agréable avec Stéphane Serre, là, donc dans Alta Terra, à la Vigerie, c'est que vous l'avez compris, ce n'est pas sonorisé comme très souvent. On est obligé de subir des musiques de naze dans les restaurants, n'importe où. Je vais te gueuler pour avoir une conversation. Pas du tout. Et ben lui, ce sont effectivement les vaches. Alors maintenant, elles sont rentrées dans leur boîte, hein, bien évidemment, mais il y en avait. Donc je n'ai pas interrogé les vaches de Salaire sur la rénovation. Ça ne sera pas d'ailleurs votre réflexion, mais qu'est-ce que ça vous inspire, Guy Archambault?
Bah, il y en a plusieurs. D'abord, ça illustre bien ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire préserver ce qui existe. Ça, c'est fondamental.
Moins on casse, moins on a d'ennuis.
Absolument. Conserver le caractère aussi, parce qu'on est dans un lieu qui ne souffre pas de venir mettre là la maison qu'on trouve en Île-de-France, par exemple. Et puis, respecter la tradition. Et moi, ce que je souligne également, la construction, c'est une culture, en fait. Et on voit bien dans ce reportage qu'on a réhabilité la maison mais en même temps, autour, on a préservé la nature, on fait pousser ces petites herbes à côté de la maison. Bref, on a, c'est vraiment une culture globale. C'est pas seulement le fait de mettre un peu de plumes de canard ou que sais-je dans, la, oui. dans le mur. C'est, on est vraiment dans une culture complète. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument comprendre. L'autre intérêt, j'entends parler des espaces verts. On laisse, comme le disait quelqu'un qui m'est assez cher, Gilles Clément, les indésirables se propager. Et si vous voulez pouvoir gérer le confort d'été qui va être l'enjeu de ces nouvelles réglementations,
il faut s'adosser au végétal.
Eh bien, il faut effectivement s'adosser au végétal. Si vous bétonnez tout autour de votre maison, d'abord sur une maison ancienne, ce serait une aberration parce que vous allez perturber le fonctionnement de la maison, de la récupération d'eau. Mais en plus, vous allez avoir de la peine à faire du rafraîchissement nocturne. Alors en français, on appelle ça du free cooling, c'est-à-dire que...
Oui, rafraîchissement nocturne, c'est bien, on a compris.
Voilà. Oui. Donc pour rafraîchir un petit peu les masses de pierre qui, enfin, ou d'autres matériaux qui se sont chargés de chaleur la journée, mm-hmm. eh bien on crée un courant d'air la nuit. Mais si l'air à l'extérieur, par restitution de la chaleur des dalles, est aussi chaud que celui de l'intérieur, on ne va pas arriver à grand-chose. Et trois semaines comme ça, on arrive à des canicules comme celles qu'on a connues.
Et nous poursuivons le voyage avec Charlie Couture.
Y'a quelqu'un à l'intérieur de moi, quelqu'un que je ne connais pas, celui qui parle à ma place, il dit des mots que je dirais pas, je le vois faire des grimaces, c'est d'autres qui me dépassent. Y'a quelqu'un.
Charlie, vous l'avez reconnu, qu'il détenait, ça fait le lien avec la semaine dernière, quand on était au festival de Montier-en-Der de la photographie animalière, puisqu'il donc, il a fait des textes, de très jolis poèmes sur le livre de Vincent Munier qui s'appelle « Au fil des songes ». Alors reprenons, nous sommes bien dans la rénovation hein, cette semaine, vous avez bien compris. Nous sommes là, France Inter, en direct, j'espère que tout va bien. Réchauffez-vous un petit peu là autour du poêle à bois peut-être. Et nous avons une trentaine de millions donc, de maisons, de logements. 20 millions, je vous le disais tout à l'heure, sont antérieurs à 1973. Alors là, que faire, Guy Archambault ?
Ah, alors là, ces maisons-là, en règle générale, j'ai parlé tout à l'heure des maisons très anciennes. Donc celles-là, on a vu qu'il fallait conserver un maximum d'inertie si on le pouvait. Maintenant, la maison qui est des années 60, 70, voire même un peu antérieure, là, il va falloir commencer à penser à faire de l'isolation des murs. Mmh. Le faire par l'extérieur, c'est bien. Parfois, c'est difficile parce que le caractère de la maison ne s'y prête pas, ou on veut le conserver, auquel cas, il faut le faire par l'intérieur. Mais quoi qu'il en soit, généralement, il n'y a pas d'isolation. Et là, il faut faire quelque chose.
Alors, qu'est-ce que c'est ? Isoler par les murs, par l'extérieur ?
Isoler les murs par l'extérieur, essayer de trouver une solution qui permet d'habiller les murs à l'extérieur. Alors, ça a plusieurs vertus.
C'est-à-dire qu'on essaye d'enfiler un gros pull-over sous forme de laine de verre, de polyester.
À partir du moment où la laine est protégée, ma foi, on peut utiliser des laines minérales sans aucun problème. Regarder aussi avec des enduits minéraux, de préférence à des enduits en plastique, je dirais, dans le cadre d'une réflexion écologique. Il y a aussi des solutions qui existent, on appelle ça du demi-bastin, c'est-à-dire une espèce de solivette qui, en épaisseur, qui permet de garnir avec un isolant et s'est habillé avec un bardage bois. Bref, les solutions sont multiples. Après, il faut voir avec le professionnel que l'on rencontrera. Ça a la vertu de protéger le bâti et ça a la vertu d'apporter une isolation. Et la troisième vertu, c'est de conserver l'inertie du mur à l'intérieur et de ne pas manger la surface.
Alors, ce que l'on appelle l'inertie, pour celles et ceux qui ne savent pas exactement ce que c'est dans une maison...
En gros, c'est si on veut être simple dans l'explication, le mur capte de la chaleur et la restitue dans un laps de temps qui varie en fonction de la nature du matériau. Donc, on prend la chaleur quand il y en a trop et on la restitue quand on en a besoin. C'est en gros comme ça que ça fonctionne. Et c'est plutôt intéressant. Ça évite comme ça d'avoir besoin, par exemple, l'été. J'insiste fortement sur le confort d'été parce que c'est celui qui nous pose problème. Il n'est pas vraiment pris en compte dans la réglementation thermique qui arrive. Et là, on a un vrai souci parce que, pour l'instant, les professionnels pensent qu'on va réellement dans le mur avec cette réglementation. Alors, dans le neuf, effectivement, mais également dans la rénovation. Les textes sont pas encore publiés, mais enfin... Il est peu probable qu'elle soit davantage prise en compte.
Guy Archambault, que l'on comprenne bien au niveau des fuites, des déperditions. Donc on a parlé du toit, 30% minimum, ça peut aller même encore plus haut. Peut y avoir donc les sols, il peut y avoir bien sûr les murs, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. Les fenêtres et qui ont bénéficié de crédit d'impôt, c'est ce qu'on a peut-être le plus fait aujourd'hui en France aussi. Ça correspond à quoi ? 15% à peu près ? Les ouvrants, les portes et les fenêtres, si on fait une moyenne enfin...
Ça dépend beaucoup de la nature du bâti.
Oui.
Mais il est impératif de mettre des fenêtres performantes et ne pas se cantonner seulement aux critères retenus dans les réglementations, le crédit d'impôt ou le prêt à taux zéro. D'ailleurs, ce n'est pas les mêmes. C'est important tout de suite de mettre de la très haute performance parce que cette fenêtre, elle va rester dans le mur, dans l'état actuel des choses, une trentaine d'années. Et donc, on voit bien que la quête des calories va s'accentuer. Et dans certaines régions, le triple vitrage est une excellente solution. Je pense notamment aux régions de montagne, de moyenne montagne. Ce n'est pas un mythe. Aujourd'hui, il est démontré que le triple vitrage apporte quand même beaucoup d'intérêt dans le traitement du confort d'été comme d'hiver.
Est-ce qu'il faut tout faire en même temps ou bien il faut faire ça petit pas par petit pas ? Des gens vont vous dire, attendez, là, faut y aller à fond. Quel est un peu votre sentiment, vous ?
Vous savez, il y a des priorités. Ça, c'est clair. Alors, les priorités, selon le bâti, on l'a vu tout à l'heure, et par exemple, pour les appartements, si on n'en a pas parlé, mais changer les fenêtres, ça paraît évident, parce que souvent, ils sont encore avec du simple vitrage. Il faut savoir qu'il y a pratiquement la moitié des vitrages en France qui sont encore du simple vitrage. Ça fait donc une déperdition 6 à 8 fois supérieure, quand ce n'est pas davantage, à des vitrages double performants ou triple vitrage. Il faut associer ce remplacement par une ventilation sérieuse. C'est pas suffisant de mettre une petite grille sur la façade, d'autant que sur des appartements, vous avez le phénomène bruit ensuite qui vient se greffer là-dessus. Donc, il faut une vraie ventilation. Ça constitue les priorités. La couverture, c'est très important. Changer le vitrage de la fenêtre de toit, ne pas l'oublier. Les fabricants, en général, ont un service qui s'occupe de ça, qui vous remplace les joints. Vous mettez ensuite de l'isolant. Ça, c'est tout à fait impératif. Alors, il y a deux hypothèses. Ou vous le faites par l'intérieur si la toiture est en bon état. Au bout de 20 ans, en général, une toiture a besoin d'être remaniée. Ça peut être l'occasion de le faire en découvrant, en vérifiant que tout soit en bon état.
Oui. Mon cousin, quand il a voulu refaire sa salle de bain, il a couché sur mon canapé pendant plus de 2 mois.
Si vous allez parler les travaux, on sait quand ça commence, mais on ne sait pas quand ça termine.
Eh ben oui, c'est souvent comme ça. Alors Guy Archambault, tenez, on va prendre notre truelle et puis peut-être laisser faire un professionnel avec les enduits chaud et chanvre. Donc ça aussi permet d'isoler les murs intérieurs. Quels sont les avantages ?
Le confort, c'est pas seulement la température de l'air. Il y a donc une stratification qui peut s'opérer selon la façon dont l'air est chauffé. Et il faudrait pas qu'on dépasse 3 degrés entre la tête et les pieds, dit-on. C'est une notion de confort relative, mais enfin, c'est intéressant de le noter quand même. Mais il ne faut pas non plus, et c'est là où ça devient intéressant, qu'il y ait plus de 3 degrés entre la température de surface des murs et la température de l'air. Pourquoi ? Parce que le corps est beaucoup plus sensible à la température des parois qu'à la température de l'air. Pour une raison simple, lorsque la température de la paroi est trop basse, et selon les échanges, tout le monde connaît un peu la thermodynamique, même sans entrer trop dans le détail, ce qui se passe, c'est pas que la paroi soit froide et renvoie du froid, c'est que le corps étant plus chaud que la paroi, l'énergie du corps migre vers la paroi la plus froide, et ce qui vous donne cette sensation de froid. Donc le fait de mettre sur un mur ancien un enduit de chaux et de chanvre fait que la température du mur s'élève et que par conséquent on est au confort sans avoir besoin de chauffer au-delà l'air. Et donc on fait des économies de chauffage.
Aujourd'hui, Guillaume Chambaud, 57% des Français sont propriétaires, 43% sont locataires. Là, il faut quand même en dire un petit mot, parce que ça veut dire que ces gens-là ne peuvent intervenir sur leur logement que par l'entremise de leurs propriétaires, de leurs bailleurs sociaux, que sais-je. C'est comme ça que ça se passe et c'est pas forcément très très simple.
Ce n'est pas simple. Dans les copropriétés, par exemple, on voit bien aujourd'hui qu'on bute sur plusieurs problèmes. Le premier problème tient au fait qu'on a voulu absolument faire de propriétaires des gens qui n'avaient peut-être pas les moyens ni d'acheter ni d'entretenir.
Le président de la République l'a dit, il voulait une France de propriétaires. Voilà.
C'est son droit le plus strict. Je ne veux pas entrer dans ce débat. Je veux simplement considérer qu'il arrive un moment où ça a un coût et que tout le monde n'a pas les moyens de posséder. On voit bien aujourd'hui que des gens ont pu hériter d'appartements ou de maisons qui, aujourd'hui, sont assez chers et coûtent cher à entretenir. Et on voit bien dans quel état le parc se trouve aujourd'hui. Vous avez des consommations de 300 à 400 kWh au mètre carré. Alors oubliez l'unité, mais enfin rapprochez ça des 50 que l'on vise aujourd'hui dans la réglementation pour le neuf. Donc vous voyez quand même qu'il y a un gap considérable à franchir. Et il ne faut quand même pas perdre de vue que le prix de l'énergie ne va pas cesser de croître. Et on estime par exemple qu'une hausse de 20% du prix de l'énergie entraîne la précarité de 200 000 familles.
Et la loi NOM ne va pas améliorer les choses telles que c'est parti.
Écoutez, moi je fais un constat. Si vous regardez ce qui s'est passé en Grande-Bretagne, on a une augmentation, si ma mémoire est fidèle, de 27% la première année, 18% la seconde. Nous avons aujourd'hui en France 5 millions de foyers qui sont concernés par la précarité énergétique. 5 millions.
C'est énorme.
5 millions sur 30 millions. Je pense que c'est une question qui est fondamentale et pour laquelle il va falloir que nous trouvions des réponses.
Alors deux points maintenant. L'économie du système. Qu'est-ce que le Grenelle a pu apporter ? Parce qu'il faut quand même trouver de l'argent. Les gens nous écoutent, ils nous disent « Oui, c'est bien gentil, moi j'aimerais bien pouvoir la rénover, ma maison, mais je ne peux pas. » Ou alors j'ai mis déjà de l'argent dans les fenêtres et maintenant j'ai plus d'argent.
Ça, c'est une très bonne question. Alors, je voudrais rappeler que dans le préambule du Grenelle, il y a deux termes qui ont été employés. On parle d'économie circulaire. Alors, l'économie circulaire, en deux mots, c'est l'économie du remploi et du recyclage. Et on parle d'économie quaternaire. C'est l'économie de l'usage et du service. Et ça, c'est tout à fait fondamental. Je pense personnellement que si on veut arriver à nos fins, il faudra changer de modèle économique. Et je poserai la question juste pour lancer le débat, je dirais quelque part. Est-ce que quand j'entre dans un logement, j'ai besoin de posséder la fenêtre ?
Oui, alors ça, les gens ne vont pas comprendre. Mais
alors non, en d'autres termes, on accepte...
Je vais être locataire de ma fenêtre, c'est ça ?
On accepte volontiers de pouvoir avoir une voiture en leasing,
oui,
par exemple. Pourquoi pas imaginer un système dans lequel on pourrait avoir... la chaudière, le système de ventilation, enfin tout ce qui a une influence sur l'individu ou sur l'environnement qui puisse être mis à disposition moyennant une rétribution mensuelle.
Et donc vous passez votre contrat lorsque vous revendez la maison, on va dire.
Alors évidemment c'est attaché à la pierre et on peut considérer ainsi que le remplacement peut être programmé. On peut considérer par exemple qu'une chaudière a une durée de vie normale de 10 ans.
Donc ça reviendrait moins cher en définitive.
Ça finirait par être, ça reviendrait moins cher parce qu'on pourrait recycler tous les éléments puisqu'on aurait une économie qui pourrait savoir quand et combien de matériaux vont arriver, si je dirais. Et puis d'autre part, ça serait un moyen de pérenniser les performances des bâtiments. Si vous remplacez la fenêtre tous les 10 ans par exemple, eh bien on va mettre une fenêtre au canon du moment où on va la remplacer. Alors il faut imaginer la fenêtre, évidemment, où on n'ait pas besoin de remplacer les ouvrants, mais enfin si on travaille des ouvrants cachés, c'est tout à fait possible.
Les artisans, aujourd'hui, les qualifications, beaucoup de personnes vont vous dire, attendez, il n'y a pas assez d'artisans qui sont formés sur ces nouvelles méthodes.
Alors ça, c'est tout à fait clair, on va manquer d'artisans. Parce que si on veut rénover suivant le plan du Grenelle, il faudrait rénover 400 000 logements par an. Mmh. Si vous en construisez 300 000 à côté, ça fait 700 000, sans compter les bureaux et sans compter tous les autres bâtiments. Donc là, je crains qu'on manque de bras, et donc il va falloir déjà imaginer des moyens de construction qui permettent d'employer des gens qui ne sont pas forcément des grands professionnels. Maintenant, si vous faites de la rénovation, en revanche, là, je pense qu'il faut faire appel absolument à des professionnels. Il y a des qualifications qui existent. Il y a aujourd'hui, par les organisations professionnelles, des formations spécifiques. Je pense aux éco-artisans du côté de la CAPEB. Je pense aux pros de la performance énergétique du côté de la FFB. Ce sont des gens qui sont spécialement formés. Il y a des programmes FIBAT qui vont également dans ce sens. Je ne rentre pas dans le détail, mais ce sont des programmes de formation, j'allais dire, un peu accéléré.
En tant que particulier, je regarde quoi? Je regarde donc éco-artisan, pro de la performance, Calibat, par exemple, c'est ça?
Oui, c'est ça.
C'est épouvantable! J'ai entendu des coups de tonnerre! Que se passe-t-il?
Ne vous inquiétez pas, Madame de la Joliette, je vous présente mon architecte, Eduardo Buenaventura. Eduardo, Madame de la Joliette, ma voisine du dessous. Ça va pas durer longtemps, je fais juste quelques petits aménagements. N'est-ce pas, Eduardo?
Ne vous inquiétez pas, Madame, tout sera très bien passé.
Pierre Chambaud, la maison de demain rénovée, qu'est-ce que ça devrait être?
Alors on va se trouver confronté à plusieurs difficultés. L'avenir de la maison demain est lié à sa performance thermique. Il est absolument évident que demain, les maisons qui retrouveront preneur seront des maisons qui auront des performances thermiques au canon du moment, je dirais. C'est que la maison ne se trouve pas trop loin d'un endroit où on puisse attraper un transport en commun.
Oui.
Il y a eu une prise de conscience en août 2008, lorsque le baril a atteint 140 ou 150 dollars, et qu'on a vu flamber le prix de l'essence. Et on s'est aperçu que toutes les grandes surfaces décentrées perdaient du terrain. On parle de 18% de perte de chiffre d'affaires. Mais il ne faut pas oublier non plus que les maisons banales à vendre ne voyaient plus personne pour les visiter quand elles se trouvaient à plus de 2 km d'une gare. Et il y a eu sur une chaîne de télévision récemment un reportage dans un lotissement, et je me rappelle la remarque d'un habitant qui a dit: si on m'avait dit que j'aurais 700 euros par mois de transport pour aller travailler en plus du remboursement de la maison, je ne l'aurais pas fait.
Mais sur un coup, parce qu'aujourd'hui, j'ai moins de 3 000 euros. Donc, oui.
Aller habiter à Bray-sur-Seine pour travailler à la Défense, c'est vrai que ça paraît quand même un petit peu surréaliste. Donc on n'a pas payé cher le terrain, on n'a pas trop payé cher la maison parce qu'elle n'est pas au canon encore d'actuel. On s'est bien gardé de la mettre au canon d'actuel, alors qu'elle va rester en place plus de 50 ans. Mais en plus, c'est la triple peine, il faut faire 25 km pour trouver la première gare et après payer des transports à des prix évidemment extrêmement élevés.
Guillaume Chambaud, qu'est-ce qui vous semble positif aujourd'hui dans la rénovation?
Moi je trouve ça très bien, ça a au moins un effet, c'est qu'on s'intéresse au bâti. Mais il faudrait pas oublier l'occupant. Et je voudrais bien quand même quelque part qu'on n'oublie pas l'occupant dans cette affaire et qu'on n'ait pas une vision seulement technicienne et techniciste du sujet. Il faut prendre en compte également la vie de la famille et surtout prendre en compte l'écosystème dans lequel on se trouve. Qu'il s'agisse de l'écosystème l'environnement, mais qu'il s'agisse également d'écosystème intérieur, de façon à bien préserver le bâti pour l'avenir.
Merci Guillaume Chambaud. Donc quelques grandes idées sur la rénovation. Il ne s'agit pas de rénover votre maison là où vous êtes en France, parce que vous aurez des considérations différentes les uns et les autres. Je peux renvoyer à ce salon Bâtir écologique où se trouve Guillaume Chambaud, donc ça c'est ce week-end. Et puis alors, un certain nombre d'ouvrages, il y en a beaucoup aux éditions Terre Vivante en particulier, il y en a aussi chez Dunod. Vous avez La rénovation écologique de Pierre Lévy, L'isolation thermique écologique de Jean-Pierre Oliva et de Samuel Courget, toujours chez Terre Vivante, Rénovation basse consommation de Roland Dutray. Bon voilà, ça donne quand même plus que des bases, et là allez-y, bon courage. Et donc on va poursuivre notre voyage, nous, un petit peu en musique. The Do, oui, c'est bien aussi ça.
Thank you.
On My Shoulders sur France Inter, The Do, c'est le dernier disque de CO2, mon amour. Mais, un petit agenda. Alors, il va être rapide, mais vous allez voir qu'il est, comme on dit, complètement raccord, parce que déjà, depuis un certain temps, vous avez un DVD qui tourne un peu partout en France, qui s'appelle Un monde pour soi.
Un jour, j'ai vu surgir au milieu des champs une forme industrielle qui ne renvoyait à rien, à aucune histoire, à aucun environnement. Il y en a eu une deuxième, puis une troisième. Et maintenant, le paysage est constellé de maisons standardisées. Au début, j'ai cru qu'elle finirait par se fondre dans le décor. Mais le temps n'y a rien fait. Le monde ancien est mort. Et ces maisons qui poussent les unes à côté des autres en se tournant le dos n'en créent pas de nouveau.
Alors, en fait, Un monde pour soi, c'est un DVD qui fait une petite trentaine de minutes et qui est un outil qui est tout à fait percutant, mais vraiment de prise de conscience que nos rêves de maisons individuelles, évidemment qu'ils sont beaux, parce que c'est un choix vraiment de beaucoup de Français, on le comprend, hein. On va pas culpabiliser les gens, loin de là. Mais aujourd'hui, c'est en contradiction avec le bien-être collectif et personnel. Donc, ça fait pas mal de bruit en province, et aussi dans les villes, parce que les gens voient cela, et donc c'est un très très bon, une très bonne ouverture pour un débat. Donc ça s'appelle Un monde pour soi. Et si vous tombez dessus, bah, vraiment n'hésitez pas, c'est vraiment très très bien fait. Nous allons nous quitter sans avoir oublié de remercier Éric Morin, Thibaut Deschamps à la technique, Marion Lelay, Jean-Christophe Pinaza, Valérie Ayestara qui réalisait cette émission, Muriel Pérez a choisi les disques, notre cyber-documentaliste et Anne Gouzon qui nourrit les sites de CO2 Mon Amour et aussi son actualité environnementale en temps réel. La semaine prochaine, alors la semaine prochaine, ça va être très intéressant aussi, j'ose le dire, Pierre Radan. Je ne sais pas si vous le connaissez, Pierre Radan est déjà venu plusieurs fois dans cette émission, c'est un expert en climat. Oui, mais bien sûr, remettez-moi les vaches de Salers, j'adore ces vaches-là. Formidable, ce sont de très belles mamans. Ce sont des... Non mais c'est vrai, ce sont des mères incroyables. Si vous approchez du petit, il ne faut pas le faire, ce n'était pas le sujet. Donc Pierre Radan, alors qui sera interrogé par six jeunes étudiants et qui en fait nous donnera un peu la feuille de route dans ce siècle à venir, dans ce siècle en cours. Donc à écouter, ce sera donc à 14h, vous le savez. La Tulu, mon petit loup, ce sera demain après les petits bateaux, donc vers 19h54. Bon, je ne le dis pas toutes les semaines, les possibilités donc de podcaster cette émission, donc de la télécharger, plutôt de la radio charger, pourquoi toujours télécharger, et de la réécouter pendant 4 semaines. Je vous souhaite un excellent week-end sur France Inter.